qui avait gonflé son cœur. À présent, tout ce qu'il avait aimé et défendu, il y a un mois, l'indifférait. Pire, il s'en dédiait, le récusait. Et pour s'en justifier, il déballait la kyrielle de reproches qu'il avait amassée en 2 semaines contre ses anciens camarades, pour la plupart absurdes et dénués de fondement, qu'ils étaient des borrachos, des feignants, des pédés qui se mêlent à merde à seule fin de satisfaire leurs instincts lidibi, libibi, libidineux, qu'ils se montraient exagérément intègres, travers tout aussi inquiétants, et qu'ils faisaient le jeu des nationaux. Autant de préjugés et de mensonges qui avaient pris en un rien de temps le pas sur les évidences. José constaterait bientôt que les reproches de Manuel s'étaient propagés dans le village avec la violence d'une épidémie de grippe. José se sentit désarmé. Si désarmé par cette malveillance imprévue, qu'il n'eut pas le ressort moral de défendre le mouvement qu'il avait embrassé avec tant de chaleur à l'Elima. Il se dit qu'il avait mésestimé la versatilité des hommes et leur capacité à faire volte-face. Il se dit qu'il avait méjugé du besoin qu'ils ont de décrier les choses les plus belles et de les avilir, et une fois de plus, il se reprocha sa candeur. Mais il espérait encore. Rien de plus têtu, rien de plus tenace que l'espoir, surtout s'il est infondé. L'espoir est un chien-dent. Il pensait qu'il était trop tôt encore pour qu'il se déjugeât, trop tôt pour qu'il se donnât pour battu. L'espoir est un chien-dent. Et si son enthousiasme s'était singulièrement refroidi depuis les jours inoubliables, si son idée de la révolution s'était entachée d'une ombre dont la surface ne cessait de s'épandre, moi, réduite à une peau de chagrin, ma mère, que cette expression est belle. Quelque chose en lui, de son rêve passé, refusait de mourir. Il fit un effort pour se ressaisir. Feignant un ton détaché, car il ne voulait pas passer pour un naïf incorrigible, il confia à Manuel son projet minuscule d'apporter l'instruction aux paysans illettrés du village, volontairement maintenus dans un état d'arriération dont un certain Diego éhontément abusait. Manuel eut une grimace. Il dissimulait mal son scepticisme. Il essaya de convaincre Rocher de rejoindre le camp dirigé par Diego, plutôt que de tenter des aventures casse-gueule. Sans quoi, il risquait d'aller au-devant des pires ennuis. « Cuidado con el pelirrojo !» Gaffe au rouquin. Jamais. José l'affirma avec la dernière énergie. Composé avec Diego, plutôt crevé. Il ne céderait pas d'un pouce sur cette conviction qu'il n'était de pouvoir qu'oppressif. Pour rien au monde, il ne voulait reproduire l'erreur de ses camarades de la ville qui, en acceptant de participer au gouvernement régional, perdaient peu à peu, de concession en reniement, ceux qui avaient fait leur force. Mais ce que José retint surtout de la discussion qui se prolongea, ce fut l'importance que Diego avait prise en quelques jours dans le village. Presque tous les paysans, il le découvrit, l'avaient rallié. Les plus hostiles au communisme faisaient à présent son éloge. Les flagorneurs le flagornaient. Vous êtes l'homme de la situation. Les salopards salopardaient et affichaient pour lui complaire leur hostilité totale aux balivernes des anarchistes. Les obséquieux se jetaient sur lui pour une poignée de main des plus marxistes-léninistes. Et les mères de famille se prosternaient dévotement devant sus cojones, parce que les mères de famille aiment à se prosterner dévotement devant los cojones des chefs, dit ma mère. José apprit aussi, dans le décours de la conversation, que son propre père était devenu l'un de ses fidèles. Ce fut un coup de couteau dans son cœur. Tandis que José, dans son village, se désolait, Monse Francisca, à 10 kilomètres de là, n'en finissait pas de se délecter des plaisirs de la ville. Chaque soir, elles allaient s'asseoir à la terrasse des cafés, où depuis la Révolution, l'on pouvait consommer gratuitement un verre d'eau sans être congédié et regarder la nuit descendre doucement sur les toits des immeubles. Un soir d'août, c'était un mercredi, Monse s'installa seule dans le café Lestiu où elle s'était rendue le jour de son arrivée et elle reconnut immédiatement, assis à la table voisine, le jeune homme français qui avait récité le poème sur la mer. Alors nos yeux se saluèrent et l'amour se leva.